Bonjour, c'est Julien du Marais Poitevin et ceci est un appel à la résistance. En autorisant le démarrage des travaux de la plus grande méga-bassine à Sainte-Soline, en Deux-Sèvres, et en autorisant la construction d'une méga-bassine des neiges à La Clusaz, en autorisant l'abattage d'une forêt et d'une tourbière en pleine montagne, l'État français et le gouvernement Macron-Borne ont déclaré la guerre à l'eau, à la biodiversité. Dès à présent, allez soutenir, allez relayer les camarades qui occupent la forêt du plateau de Beauregard à La Clusaz et boycotter les stations qui s'enferrent dans cette logique de sport d'hier alors que tous les glaciers fondent. Rejoignez les 29 et 30 octobre et plus si affinité le petit village de Sainte-Soline entre Niort et Poitiers pour qu'à des milliers, nous stoppions définitivement ce projet et les presque 1000 projets de méga-bassines en projet sur l'ensemble du territoire. Sauvons la Loire et toutes nos rivières. Sauvons la biodiversité. Sauvons l'agriculture paysanne. Noba Saram.
Bonjour la Terre au carré. C'est Agnès de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels à Olivet, dans le Loiret. On est vraiment ravis que l'émission de cette semaine nous embarque sur la Loire, véritable mosaïque d'habitat regorgeant d'une incroyable biodiversité. Retrouvez toutes nos actions sur le site du Centre de ressources Loire Nature. À bientôt. Merci et bonne émission.
Bonjour, Nancy du Grand Luberon. Au sujet de l'émission sur les oiseaux migrateurs, pensez-vous que de les accueillir dans des filets contribue à leur retour en grand nombre ? Cette pratique est absolument odieuse et irrespectueuse vis-à-vis des oiseaux. Et tout cela pour la connaissance de l'être humain, mais pas pour le bien-être de ces oiseaux.
Bonjour, c'est Gisèle, je vous appelle de Bourges. Il est 4h30 de l'après-midi. Il y a 23 degrés de chaleur sous abri, et enfin plein nord en plus. Et je viens de voir passer en formation en V les oies sauvages plein sud qui nous annoncent que l'hiver arrive peut-être. C'est le premier vol que je viens de voir. C'est magnifique, ça fait toujours quelque chose, ça me fait un pincement au cœur à chaque fois. Pensant à Nils Holgersson, magnifique livre pour tout le monde. Au revoir.
Moi, je pensais à Michel Delpech aussi, avec les oies sauvages. Le répondeur de la Terre au carré. Vos messages, 01 56 40 45 45. Après 3 jours de pérégrination au bord du fleuve, eh bien, nous avions envie, avec Camille, de faire escale dans un lieu revigorant, histoire de nous refaire une santé tout en expérimentant le goût de la Loire. C'est ainsi que, solidement conseillé par nos amis François-Régis Gaudry et Jérôme Gagnès, dont on va déguster, nous avons atterri, complètement par hasard, au domaine de Grosbois à Panzou, près de Chinon. Un lieu posé donc entre la Loire et la Vienne, qui, vous allez le découvrir, s'intéresse non seulement à la vigne et au vin, mais aussi à un modèle d'agriculture et d'élevage respectueux de la nature, basé sur la diversité des cultures. Pendant toute cette heure de Terre au carré, on va partager avec vous donc la découverte de ce domaine, avec celles et ceux qui y travaillent. Et ils sont nombreux aujourd'hui à nous accompagner, puisqu'il y a Nicolas et Sylvain Grosbois, Véronique Gauthier, Alexis Coureau, Delphine Pugali et Anna Planeyes-Barcia. Bonjour les amis.
Bonjour.
Oh là là, ils sont forts, merci de nous accueillir cet après-midi. On va crapahuter avec vous jusqu'à 15h, on va essayer de comprendre ce que signifie la pratique de la polyculture et de l'agroécologie, qui sont les deux mamelles de votre domaine, et vous allez également répondre à nos auditeurs qui ont sûrement des questions à vous poser sur la vigne, l'élevage ou le maraîchage, la page de la Terre au carré pour nous retrouver, tout comme les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30 pour une partie de pêche.
Oui, pas n'importe laquelle, pêche au silure, le plus gros poisson d'eau douce devenu un peu une célébrité, mais alors ça agace Romain Gadet, le pêcheur qui m'a emmené.
Le silure, il a trop une gueule, quoi. Du coup, tout le monde, ah, le silure, mais putain, il y a plein d'autres trucs dans la Loire.
Il y a plein d'autres trucs, oui, une trentaine d'espèces de poissons. Alors, ai-je quand même rencontré le monstre ? Suspense.
Et puis avant 15h, le reportage d'Anaëlle Verzo sur le front des luttes ligériennes. Anaëlle nous emmènera aujourd'hui à vélo à la rencontre de militants qui s'opposent aux centrales nucléaires dans la région. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisé par Valérie Ayestaraï et Théo Raison. Dossier préparé par Lucie Sarfati. Benoît Gégou et notre chargé de production, Hélène Langlois et Nicolas Mathias sont avec nous pour le son. Et Thomas Langlan à Paris pour la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, nous sommes donc cet après-midi à Panzou, au domaine de la famille Grosbois. Face à nous, un panorama sublime hein, qui embrasse toute la région. Plein sud, le soleil aujourd'hui est de la partie. Nicolas Grosbois, vous êtes vigneron polyculteur. Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs de la Terre au Carré, nous décrire ce que l'on voit autour de votre domaine?
Bonjour à tous. Eh bien, on est très content de vous accueillir, toute l'équipe, sur le domaine Grosbois.
Merci.
On est rive droite de la Vienne, sur la commune de Panzou, dans l'aire d'appellation Chinon. Production de vin rouge essentiellement. On a devant nous les vignes du domaine sur 12 hectares,
ouais,
qui sont des petites parcelles imbriquées les unes dans les autres, qui datent d'une vieille ferme fortifiée qu'on aperçoit derrière du 15e, 16e siècle, où on travaille la partie de vignoble. Et en dessous, on a tous les pâturages pour les animaux, le maraîchage que tu aperçois là-bas,
ouais,
au loin à gauche.
Il y a une serre au loin là-bas, ouais.
Et dans le lointain, dans la ligne de fond, les vignes de l'appellation Chinon en général, la Vienne.
Alors la Vienne est devant nous.
La Vienne est devant nous, fait un grand arc de cercle par le sud, vient de Limoges.
Et la Loire, elle est où alors?
Elle est derrière nous, de l'autre côté de la forêt de Chinon. Et c'est ce qui fait toute la qualité de Chinon et de son appellation, c'est qu'on est nourri par Limoges.
Alors cet endroit et ce domaine, c'est une histoire de famille avant tout, hein, Nicolas. Hein.
Ouais, c'est plusieurs générations, on les compte plus, c'est un peu à la mode des fois de compter les générations. Nous, ça fait très longtemps, depuis la Révolution, on sait qu'on est là. Enfin, la famille, en tout cas. Et c'est une histoire qui a été reprise par mes parents, nos parents, avec Sylvain, Jacques et Jocelyne, en 90. Exactement, parce qu'on est issu d'une autre particularité. On produisait des pommes et des poires.
Ouais.
Et en 90, nos parents sont revenus et naturellement, avec Sylvain, on a repris les écoles viticoles. Et on s'est lancé, on a eu des parcours où on s'est baladé un peu dans le monde entier. Et puis moi, je suis revenu un peu plus tôt que Sylvain. J'étais décidé un peu plus tôt, en 2006. Et Sylvain nous a rejoint en 2017.
C'est-à-dire le frangin.
Qu'à la base, vous ne vous destiniez pas du tout, vous, à être vigneron.
On est tombé dans la soupe quand on était psy. Tu vois, donc ça a été automatique. On a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont initiés de façon complètement familiale. Donc on a été baigné dedans et c'est tombé assez logiquement.
Est-ce que vos parents avaient déjà une démarche autour de l'agriculture biologique, Nicolas?
Non, j'espère qu'ils nous écoutent. Et non, c'est pas le cas. Notre papa était pas du tout. Non, par contre, notre maman a toujours eu une sensibilité,
oui,
sur la bio. Par exemple, quand on faisait nos stages en école viticole, notre maman nous poussait à essayer de nous diriger vers des producteurs en bio. Donc on a du côté maternel une sensibilité. Et puis avec Sylvain, au fur et à mesure des voyages et des dégustations, on s'aperçoit assez logiquement que les vins issus de cette culture-là, cette agriculture-là, bah, racontent autre chose, hein, une autre vibration, d'autres aromatiques, des vins qui durent plus longtemps en bouteille. Et assez logiquement, quand tu t'installes, tu te lances.
Et est-ce que c'est facile la conversion? Parce qu'on entend beaucoup là ces dernières années des viticulteurs qui disent non mais c'est trop compliqué de se convertir. Est-ce que finalement la conversion elle est lente, elle est compliquée ou ça se fait
Une conversion dans tous les cas est toujours compliquée parce que le problème c'est pas l'humain. Le problème c'est le sol qu'il faut convertir. Nous en 3 semaines tu peux être convaincu. Notre problème c'est être capable de convertir le sol, une unité vivante à part entière, et les ceps de vigne. Donc c'est difficile, mais c'est ce qu'on va essayer d'expliquer là pendant une heure. Le but c'est de ramener de l'humain. Si tu ramènes de l'humain, et c'est pour ça qu'on a une belle équipe qui nous entoure aujourd'hui, si tu ramènes de l'humain dans tes vignes et dans ta production, ça devient facile.
De l'humain et beaucoup de diversité aussi. Hein. C'est ça qu'on va découvrir parce que là, on est dans la vigne. C'est un peu le cœur finalement du domaine. Ça reste quand même le raisin hein, qui est au cœur de tout. Mais il y a du maraîchage, de l'élevage. Et ça, on va en parler avec vous pendant toute cette heure. Hein.
Tout à fait.
Parce que c'est important justement de mélanger les choses. Alors, on va faire connaissance avec Alexis Courreau. Ça va, Alexis?
Bonjour. Oui, ça va très bien.
C'est vous qui avez développé le projet écologique justement du domaine en polyculture. Vous êtes arrivé ici il y a combien de temps exactement?
Ça fait 4 ans que je travaille ici, effectivement.
Et vous avez réfléchi donc à un grand projet avec toute la famille Grosbois pour justement diversifier absolument les espèces qu'on peut croiser ici. Donc c'est toute une réflexion d'ensemble. À long terme d'ailleurs, vous avez réfléchi à la question sur combien de décennies presque?
Le point central de notre système, c'est l'arbre. Donc des décennies effectivement.
Ouais.
C'est un temps très long. Et sur la mise en place, de toute façon, c'est sur plusieurs années, puisque ça fait plus d'un an qu'on travaille très très concrètement à savoir de quelle manière on va implanter ces arbres.
Ouais. Donc dans la vigne, parce qu'on est, on a pénétré justement dans la vigne, il n'y a pas n'importe laquelle, Nicolas, parce que là on est dans la vigne historique de la maison. Hein.
C'est tout laquelle à
fait. C'est la clôture. La clôture, c'est une vigne que nos grands-mères ont jamais voulu arracher. Parce que la mode dans les années 70, c'était le remembrement. Et l'avantage, c'est qu'au pressoir, on n'a pas eu ce phénomène-là. Et on a, dans notre héritage, et on en est très content avec Sylvain, c'est qu'on a, sur le domaine Grosbois, 60 arts de vignes qui ont été plantés en 1910. Et on hérite de ce matériel végétal-là d'une autre époque.
Alors Alexis, pourquoi planter des arbres dans une vigne? Alors c'est quoi l'intérêt de cette démarche-là?
Alors, là, effectivement, on est devant un...
Ah, il y a encore un peu de raisin, d'ailleurs. Hein.
Oui, il y a encore un peu de raisin.
Il n'a pas été tout vendangé?
Non, ça, c'est ce qu'on appelle les grappillons. C'est les grappes qu'on ne récolte pas.
C'est pour les oiseaux, ça, non?
Et ça se mange ou pas?
Vous pouvez goûter, mais c'est surtout pour les oiseaux, en fait.
Ouais, hein. Bon, je vais leur
mais c'est un petit oiseau, Camille, vous savez. Alors, l'arbre...
Alors, donc, on est devant un pommier et on est en même temps au milieu de la vigne. Donc, ce pommier va pousser dans un rang de vigne. Ouais. Il va dépasser, faire un houppier qu'on va maîtriser, qui va être suffisamment petit pour pas gêner les travaux.
Ouais.
Et en fait, ce pommier, c'est l'aboutissement de tout un réseau d'arbres qu'on est en train de mettre en place. Qui va sous plusieurs formes. Il y a des arbres comme ça, un peu isolés dans la vigne.
Ouais.
On a des alignements d'arbres, donc plus serrés, plus denses. On a donc ça, c'est des arbres fruitiers. On a aussi des haies, des petites haies, des grosses haies de 6 mètres de large. Et en fait, chaque forme d'implantation a un rôle à jouer.
Alors quel rôle, par exemple?
Alors en fait, il faut repartir du paysage. Là. On est dans la vigne, donc sur le coteau.
Ouais.
Il faut se représenter qu'au nord, il y a la forêt de Chinon, comme l'a dit Nicolas. C'est des milliers d'hectares de forêt. Et nous, on a la chance d'être à proximité de feuillus, donc très intéressant au niveau de la diversité. Et puis au sud, c'est les prairies, des prairies plus ou moins humides. Hein, elles sont vraiment intéressantes avec un bocage.
Mais ces arbres-là, ils vont jouer quel rôle alors?
Et donc, j'y viens. Donc, les arbres ont le rôle de faire entrer la biodiversité dans la vigne, de faire rentrer le monde sauvage dans la vigne.
Donc, il est le bienvenu, ce monde sauvage?
Il est bienvenu. Nous, on n'a pas peur du monde sauvage. On ne se bat pas contre la nature. On utilise les mécanismes naturels pour la dynamique de la plante et des sols. En fait... La biodiversité de la forêt, qui est un monde très très riche, très sauvage, et du bocage, qui est aussi le milieu agricole en fait le plus riche en biodiversité. C'est ouais. L'élevage de bovins, de l'élevage de vaches, donc c'est des prairies naturelles et des haies. Et on relie ces deux milieux grâce à ce qu'on appelle des corridors écologiques. Donc
ouais.
C'est des grosses haies de 6 mètres de large, puis des petites haies, puis des alignements d'arbres et des arbres isolés.
Ça, vous avez un énorme projet d'ailleurs, hein, Nicolas, de corridors écologiques ici. Vous me disiez, ce serait même intéressant de pouvoir travailler avec vos voisins.
Ben oui.
Pour faire, c'est ça, ces grandes allées qui pourraient favoriser, là encore, l'avenue d'espèces. Et,
Comme dit Alexis, de créer le pont entre cette forêt et le bocage. Et on en parlait, on nourrit aussi tout ça par l'exemple. Donc l'idée, c'est que avec Alexis, on monte un projet qui soit cohérent, qui soit positif, et qu'on puisse, pourquoi pas, trouver notre voisin Yvan qui puisse se dire un jour, je vais mettre des haies aussi, et notre voisin Julien qui se dise la même chose. L'idée, c'est de propager l'idée. Il faut pas qu'on la... enfin, c'est tout ça. Il faut que ce soit mis à disposition. On le fait pour l'endroit.
Mais c'est quoi l'argument pour convaincre justement?
Mais c'est montrer que ça fonctionne. Montrer que ça fonctionne. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est comme la conversion, c'est pas très compliqué. Il faut y mettre de la bonne volonté, se lever le matin. Et tout se passe bien. C'est montrer que ça fonctionne.
Alexis.
Et à partir de ce moment-là, excuse-moi, ça fonctionne.
Alexis Cour, moi je me posais une question quand même de mélanger tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes potentiels de concurrence, notamment au niveau de l'eau, surtout quand on a une sécheresse comme on a eu cet été?
Alors justement, l'arbre a un pouvoir extraordinaire. On sait que les forêts provoquent elles-mêmes leurs précipitations. Et donc, à l'échelle de l'agriculture, implanter des arbres, ça a un rôle de régulateur climatique. Puisque c'est ça la question, là, l'eau ou les températures. Donc les arbres ont l'effet d'atténuer l'effet du gel et aussi d'atténuer l'effet des canicules.
Et vous n'avez pas peur d'attirer des oiseaux qui vont venir pécorer votre raisin, justement, en mettant plus d'arbres?
Eh bien, on n'a pas peur de la nature sauvage, encore une fois. Et en fait, on se dit que plus on va complexifier le système, l'écosystème, plus il va se réguler, s'auto-réguler. C'est ça en fait l'idée. Si on peut prendre l'exemple de la maison charbonnière, donc elle n'est pas une concurrente de la vigne, mais elle mange des chenilles. Elle peut manger 500 à 900 chenilles
par
couple par jour pour nourrir ses petits. Donc, pour qu'elle ose pénétrer dans la vigne, il faut des arbres.
Et ça, c'est des chenilles en moins pour vous, justement.
Et les chenilles, c'est un problème.
Ouais. Donc, Nicolas, il y a aussi l'idée d'utiliser le moins d'énergie possible dans tous vos projets ici. Hein.
Tout à fait.
C'est quand même ça aussi, le fait de faire appel à la nature et de provoquer la diversité.
Il faut que le système s'économise. Et évidemment, et l'aboutissement, on en parle souvent avec Delphine, et ça fait quelques années qu'on en parle, mais ça sera le cheval à la fin.
Ah oui. Ah oui, parce que pour l'instant, j'allais vous demander, vous passez comment là dans les vignes?
Aujourd'hui, on utilise le tracteur thermique. Malheureusement, on n'a pas d'autres solutions. Il faut comprendre que c'est un long processus à remettre en route. Ça fait 10 ans qu'il est enclenché. On sait qu'il va nous falloir encore 10 ans pour trouver l'aboutissement ou l'équilibre qui correspond au lieu, pas qui nous va, mais qui correspond
donc
au lieu.
Donc objectif cheval dans 10 ans, c'est ça?
C'est l'idée. Ouais.
Est-ce que vous avez croisé Véronique dans les vignes? Véronique, où êtes-vous?
Je suis là.
Ah ben voilà, elle est juste à côté.
Je suis toujours dans les vignes.
Allez, ben oui, c'est votre métier et on va en parler dans un instant. On ira également rencontrer Delphine qui nous attend dans le chai pour nous présenter une partie particulière du vin justement que vous produisez ici au domaine Grosbois. Et ce sera dans un instant, juste après IBI sur France Inter.
All over my skin, my lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out and I exhale in, and now I'm high. Was it all a dream?
Nous sommes aujourd'hui en direct du domaine Grosbois dans la commune de Panzou en Indre-et-Loire pour parler agroécologie et polyculture. Et donc Véronique Gauthier nous a retrouvés dans la vigne. Vous êtes la responsable des équipes qui travaillent justement ici. C'est quoi votre rôle exact?
Alors mon rôle, c'est d'encadrer une équipe pour qu'elle se sente bien et qu'elle puisse appliquer et comprendre les consignes qu'on nous donne pour que la vigne produise correctement, qu'elle s'abîme pas, et d'organiser aussi les recrutements, de chercher les saisonniers parce qu'on a évidemment besoin de saisonniers pour faire ces travaux.
Vous dites que c'est les petites mains de la haute couture.
Exactement. Hein. Ouais. Il n'y a pas de vin sans petites mains, il n'y a pas de raisin sans les saisonniers, sans les permanents aussi. Mais on a besoin aussi de cette main d'œuvre très chouette qu'on recrute depuis quelques années.
Combien de saisonniers par an moment justement pour faire les vendanges?
Ah, on est plutôt 20 à 20 en pleine saison, 25 pour les ébourgeonnages par exemple. Et puis pour la taille, on est un peu moins évidemment. Mais
et pour les vendanges?
Alors pour les vendanges, là, c'est festival quoi.
Et c'est grande table aussi.
Ouais,
hein,
grande voilà, table grande festive. Table. On mais boit un peu d'alcool.
Vous avez trouvé cette année parce qu'il y avait quand même des problèmes de...
Aucun problème,
ah ouais,
oui. Ouais.
Comme quoi?
Oui, non, c'est qu'on sait bien les accueillir en fait. Ouais. On leur propose d'être pleinement impliqués.
Qu'est-ce que, en ce moment, à l'automne, vous faites dans la vigne? Alors, les vendanges sont passées, voilà, avec un petit peu d'avance d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors là,
comme c'est quoi
vous voyez,
le boulot?
Là, vous voyez, les vignes commencent à perdre leurs feuilles et deviennent il y a de très jolies couleurs.
Ouais.
Nous, on va profiter de ces instants-là pour repérer, comme c'est gros cèpe, vous voyez, là, c'est pas tout à fait le cas. Là, c'est quelque chose qui a été recépé et qu'on coupera.
Ouais.
Il va pouvoir s'émanciper. Mais sinon, ce qu'on a à faire aujourd'hui qui est important, avant que les feuilles soient toutes tombées, c'est de repérer par les feuilles, les maladies et donc les cèpes que nous devons arracher parce qu'ils ne sont plus viables, ils ne peuvent plus produire, ils sont fragilisés. Donc ça, c'est des collègues, moi, là, qui en ce moment font le repérage. On les a formés et après, ils vont arracher ça avec un tracteur. Et du coup, ils vont faire ça jusqu'à la fin des parcelles et puis on va passer à autre chose.
En décembre, c'est ça, il y a une partie très importante qui va commencer.
Voilà, donc là on est encore aussi sur tout ce qui est pioche et tout ça, et bientôt, là on est dans les recrutements pour la taille. La taille c'est quand même, c'est aussi important que la vendange.
Ça c'est fondamental. Hein.
C'est deux moments très forts et c'est très technique et c'est très important de bien la faire parce que c'est ce qui fait... la future vendange.
Vous parlez des maladies éventuelles via les feuilles. Il y a quoi comme maladie qui peut toucher la vigne? Et est-ce que ça arrive souvent? Parce que je reprends ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexis, mais on parlait du gel, de la sécheresse. Des maladies, c'est des choses qu'on entend revenir régulièrement quand on parle de vigne. Est-ce que vous êtes particulièrement touché ou finalement moins?
On est touché un peu comme beaucoup de vignerons par l'ESCA, qui est la maladie du bois. Et la façon d'y remédier, il y en a très peu de solutions. La solution qu'on a trouvée, nous, c'est de se questionner sur notre façon de tailler et d'essayer de limiter les plaies invasives et de respecter le flux de sève en pratiquant une taille poussard. Et de ce fait, on se retrouve avec quelque chose d'un peu moins invasif, donc moins de portes aux maladies. Et pour l'instant, on est assez content et on se remet beaucoup en question avec un type super chouette qui s'appelle Marceau Bourdarias, qui nous accompagne régulièrement et qui forme tous nos saisonniers qui seront débutants. Mais aussi nous, on se remet en question. Il négocie beaucoup avec Nicolas sur les enjeux écologiques. Et puis chacun amène son idée parce qu'il y a aussi les enjeux économiques.
Mmh.
Et là, à partir de là, on a progressé depuis 3-4 ans parce qu'il est très dans l'expérimentation. C'est un grand fan d'Arbo. Et donc, c'est un super soutien pour nous.
Véronique, il y a beaucoup de femmes dans les vignes, hein, ou pas? Ou vous êtes un peu seule?
Eh bien, je ne suis pas du tout seule, parce qu'en fait, c'est un domaine où il y a autant de femmes...
C'est le contre-exemple,
quasiment,
ici.
Quasiment, que d'hommes. Et aussi une grosse mixité sociale. Et ça, on aime beaucoup, il y a beaucoup de mélanges.
C'est vrai que c'est une BD qui a changé le cours de votre vie, Véronique?
Ah, ben oui.
Qui vous a fait arriver ici, dans le monde de la vigne?
Bizarre, hein. C'est un peu bizarre déjà. Oui, j'étais éducatrice spécialisée, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le social, et à la fin, j'ai travaillé avec des gens du voyage qui me questionnaient sur les bourgeonnages, donc c'est comme ça que ça a commencé.
Ouais.
Et j'ai lu les BD, la fameuse BD Les Ignorants d'Étienne Davodo, et ça m'a... J'avais envie de rencontrer et d'être Richard Leroy.
Eh ben, ça lui fera plaisir s'il écoute La Terre au Carré, on l'a eu l'année dernière, il était notre invité, et cette BD a eu un rôle particulier pour moi.
Juste un mot sur le travail dans la vigne, donc c'est toute l'année, vous me disiez hors antenne, à quel point aussi l'hiver, vous êtes ultra couverte.
Ah
c'est
oui,
pas forcément
oui, en
pratique.
Fait. Mais justement,
votre attirail, c'est quoi?
Voilà. Mon attirail, c'est tout ce que c'est la fashion vigne. C'est-à-dire beaucoup de couleurs kaki, mais moi, justement, j'essaie d'éviter ça. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, je fais 1m54, j'ai fait un bac pro viticole à 45 ans et que malgré tout, la météo n'est pas un problème.
Vous mettez 14 couches et
voilà,
ça passe.
Voilà, et on s'adapte et on trouve que le bureau, il est joli parce que le bureau, il change toutes les saisons et que c'est très sympa. Donc, j'invite plein de gens à essayer l'expérience.
Voilà, alors, il faut dire qu'il y a un chien qui nous accompagne, c'est Merlin, le labrador de la famille. Il a même un bouchon de vin dans le collier. C'est poussé très très loin ici, hein, quand même, le look. Delphine Pugali, bonjour Delphine.
Bonjour.
C'est sympa de nous accueillir avec des verres à la main comme ça. C'est bien, on va rentrer dans le chai. Puisque là aussi, c'est évidemment un endroit absolument stratégique. Mmh. Donc là, changement de décor.
Et ça sent?
Ah oui.
Ça sent l'alcool. J'ai déjà un verre dans la main.
Merci. Mais c'est ça, à peine ton arrivée. Alors, qu'est-ce qui se fait ici exactement? C'est quoi ce lieu et
ici,
comment vous travaillez alors?
On est dans le chai du domaine Grosbois. Donc
vous qui êtes la directrice du domaine, hein. Attention.
Oui.
Hein.
Et œnologue aussi.
C'est la Dirlo, paraît-il.
Oui, la Wonder Dirlo.
La Wonder Dirlo.
Qu'est-ce qu'on y fait? On transforme le raisin en vin, en fait, ici.
Ouais.
c'est là que tout se passe sur l'aspect vin. Donc là, vous arrivez, cette année, on a eu des vendanges assez précoces, donc tout est terminé.
Ouais.
Vous ne pourrez pas avoir énormément de bruit. Là, on a Fred qui est ici, qui est en train de faire un soutirage.
Bonjour,
on a arrêté la pompe parce que ça fait quand même un petit peu de bruit.
Ouais.
Donc le soutirage, c'est que là, vous avez dans les cuves des vins qui sont ce qu'on appelle bruts de cuve. C'est-à-dire, ils sortent, c'est juste fin de vinification, ils sont encore très chargés en particules, ils sont troubles. Donc en fait, ils sédimentent dans les cuves. Et pour les nettoyer, pas au sens où on les passe pas dans une machine, mais on enlève le sédiment, donc on écoule le jus.
Oui.
On va ouvrir la porte quand ce sera fini, et on va enlever les lits, en fait, qui sont les particules solides.
Et ce sont des cuves en béton ?
Oui, un cuvier
alors,
béton.
Alors, il y a un peu d'inox, mais il y a aussi ces cuves en béton.
Historiquement, il y avait ce cuvier béton qu'on a gardé pour l'instant. Depuis 5-6 ans, on a un cuvier béton qui va bientôt, devrait s'agrandir.
Et donc, vous allez poursuivre toujours sur ces modèles de cuves en béton.
Oui, tout à fait. Ouais. Parce que l'avantage, c'est qu'elles sont dimensionnées pour s'adapter avec nos parcelles, en fait.
Alors, le verre, il nous sert à quoi exactement ? Parce que nous, on a envie de voir quand même, et de boire, d'ailleurs, un petit peu, avec modération, évidemment.
On n'a pas beaucoup de temps, mais on va vous faire goûter une des cuvées qui s'appelle Glacière.
Alors, donc, qui se trouve dans la cuve.
Oui. Donc là, Nicolas...
Combien de temps il se passe entre...
Alors, allez-y. Voilà.
Je voudrais bien qu'on m'en mette un petit peu aussi, tant qu'à faire.
Un petit peu. Allez. Très bien.
Je voulais savoir juste combien de temps il se passe entre le moment où le raisin est récolté et le moment où ça sort, là, comme c'est en train de sortir.
Là, il s'est passé un mois.
Un mois seulement ?
Un mois, ouais.
Qu'est-ce qui fait la particularité, alors, de ce vin-là ? C'est vraiment le plus jeune que vous ayez, c'est ça, hein ?
D'un point de vue millésime, ils sont tous du même millésime, là. Mais celle-ci est issue de la plus jeune parcelle du domaine.
Ouais.
Donc, il y a 5 ans aujourd'hui, plus ou moins. Ça s'appelle Glacière. C'est juste quand vous arrivez en bas, sur le bas du coteau. Alors, elle s'appelle Glacière parce qu'historiquement, c'est un endroit qui est assez calcaire et où on avait les pins de glace qui étaient stockés du temps où il y avait encore le château et la grosse ferme ici.
Et ça, c'est pas un vin que vous faites déguster aux gens qui l'initient au domaine, en principe, c'est
non,
ça,
ça c'est un vin jeune. C'est très particulier. Il va rester entre 6... Enfin, celui-ci, à peu près 6 mois, mais entre 6 et 18 mois en cuve, enfin, en élevage.
Avant que ce soit mis en bouteille.
Là, oui, il est très jeune, c'est un vin. Vous allez voir, ça va vous...
Alors, on le déguste.
Ouais.
Il est... Il a du caractère, en fait, hein.
Oui.
Il a besoin de grandir un petit peu, c'est
tout
ça?
Tout à fait, de s'affiner. Aujourd'hui, c'est très, c'est exubérant.
Oui.
Alors, je suis très nulle en termes d'œnologie, pardon, mais c'est un petit peu acide.
Oui, tout à fait.
Dire comme ça?
Oui.
Okay.
Ouais. Ça va. En fait, le vin va s'affiner, va se poser. Il y a des réactions chimiques qui vont avoir lieu et qui vont faire que ça va donner le vin, buvable, en fait. Là,
aujourd'hui,
vous êtes vraiment sur un vin jeune. On n'est pas dans une, en plus, type de vinification, type vin primeur. Donc, il n'a pas été vinifié pour être bu avant la fin de l'année.
Avec Nicolas, avec toute l'équipe, évidemment, du domaine, vous, votre travail en tant que directrice, précisément, de ce domaine Grosbois, c'est d'imaginer à quoi va ressembler le vin, donc, et d'y réfléchir en partageant vos impressions, vos idées communes. Ça se négocie, en fait, le travail du vin?
Ça se négocie avec Nicolas et Sylvain.
Ouais.
Oui, on déguste très régulièrement. Toutes les cuves, puisqu'on a la chance de pouvoir vinifier donc en parcellaire.
Oui.
Et après, on a des parcelles, bien sûr, qui sont dédiées et des cuvées qui sont issues d'une seule parcelle, comme la clôture, par exemple. Mais on a des haies glacières. Mais on a aussi une cuvée Gabard, par exemple, qui vient de 7 îlots autour du domaine, qu'on va assembler, mais qu'on va élever de façon différente pour vraiment s'adapter...
Donc c'est un échange d'idées, de négociations, hein.
Ouais,
vraiment, c'est comme ça qu'on élabore du vin. Allez, on va vous remercier. De toute façon, on se retrouvera tout à l'heure pour la fin de l'émission. Ouais. Je crois que vous nous avez réservé quelques petites surprises agréables. Et puis dans un instant, nous irons avec Sylvain voir les cochons qui nous attendent dans la forêt, un peu plus haut, où ils vivent, vous le verrez, en toute liberté. Mais pour le moment, c'est l'heure de Camille Passauvert.
France Inter, la Terre au carré.
Et Camille Cronier, vous êtes partie en bateau cette fois à la rencontre de l'un des emblèmes de la Loire, mais que tout le monde n'aime pas.
Oui, certains le surnomment même l'ogre des rivières. J'ai nommé le silure, cet énorme poisson qui peut largement dépasser les 2 mètres de long et 100 kilos. Je suis donc partie sur cette race avec un pêcheur professionnel qui a ouvert un restaurant à Bréhémont il y a 6 ans. Il s'appelle Romain Gadet et avec l'un de ses employés, Marcelin, ils m'ont tout de suite prévenu.
Alors, il n'y a pas que le silure dans la Loire.
Je sais que le silure est à la mode à Paris, parce qu'il est arrivé à... il vient d'arriver à Paris, ça fait depuis 1974 qu'il est en Loire. Mais on travaille une trentaine d'espèces différentes. C'est ça qui est super intéressant ici, c'est qu'il y a une grande biodiversité et que nous, on prend, entre guillemets, on prend ce qu'il y a.
On nous en parle peut-être un peu trop, et au fur et à mesure, on commence peut-être à en avoir marre de lui, mais en tout cas, à pêcher, c'est super comme poisson, enfin...
Donc moi, là, qui arrive en disant que je veux parler du silure, je suis une boulette, en fait.
Non, pas forcément, mais s'il y en a, pourquoi pas. Mais nous, on pêche plein d'autres espèces. Il y a plein d'autres choses dans la mer, heureusement.
Et là, c'est aussi l'ancien ingénieur halieutique qui parle, reconverti en pêcheur, donc. Allez, go.
Donc là, on va relever nos lignes, nos filets qu'on a placés hier soir. On va voir ce qu'il y a. C'est la surprise, tous les jours la surprise. C'est ça qui est super dans ce métier. Il y a un point mort.
Donc là, il n'y a rien, là.
Oh, il y a peut-être des choses. Disons qu'il y a plus de végétaux que d'animaux, mais... Un gardon.
Mais aussi quelques perches remises à l'eau parce qu'un petit peu petites et pas de silure.
En fait, le silure, c'est très, très lunatique, on va dire. Pendant des mois, on peut ne pas en prendre. Et puis après, on peut en prendre un tous les jours pendant une semaine parce qu'ils ont décidé de bouger. Et puis de nouveau, on peut être un mois, deux mois sans en prendre.
Ça dépend vraiment de leur mouvement, quoi.
Ça dépend de leur mouvement, qui est en général très souvent lié au mouvement de la Loire. C'est-à-dire que quand il y a une montée d'eau, tous les poissons bougent, même c'est valable aussi pour les autres poissons. Les poissons bougent, le silure va chasser ces autres poissons-là, et c'est là qu'on est susceptible de le prendre éventuellement. C'est une traque. Hein.
Va un peu par là, je pense qu'il y en a un.
What ?
À mon avis, pense qu'il y a un silure, ou en tout cas qu'il y en a un qui est venu mordre à l'hameçon. Il faut espérer qu'il soit encore là.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Quand on voit comment la ligne est emmêlée, t'es arrivé là, t'as reçu.
Oh, et bingo, sous mes yeux ébahis, un silure de plus d'1,50 m. Le duel commence avec Romain.
Là, on est comme à la pêche à la canne, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de monter petit à petit, en espérant que ça tienne, l'hameçon.
C'est impressionnant. Moi, j'en ai jamais vu en vrai, c'est impressionnant quand même. Hein.
On voit qu'il est puissant. Hein.
Et 5 minutes de concentration plus tard, voici le silure vaincu, 38 kg 3.
Vous êtes content ?
Ah bah là, on est hyper content. C'est assez physique et ils sont puissants. Lui, en un coup de tête, il peut défoncer notre ligne, sans problème.
Vous êtes déjà tombé à l'eau, hein ?
Non, ils m'ont jamais emmené jusque dans l'eau. Par contre, c'est eux qui conduisent le bateau, parfois. C'est-à-dire que quand ils sont accrochés au bateau, ils nous emmènent un peu où ils veulent, quoi. C'est génial, un poisson comme ça. Attends, juste, on va se prendre un banc de sable, là. Hop. C'est super, un poisson de cette taille-là, c'est un super poisson. Pour le resto, c'est génial.
Mais c'est bon, le silure ?
C'est excellent, excellent. C'est un poisson qui n'a pas d'arête, qui ressemble un peu à la lotte, on va dire, au niveau de la chair, qui est assez ferme. La majorité des gens n'ont jamais mangé. Quand j'ai commencé, je vendais du silure sur les marchés, les gens ils partaient en courant, parce que le silure, la grosse bête, machin... Et maintenant, ils viennent en courant pour en manger. Et quand on n'en a pas au restaurant, on se fait engueuler.
Réputation gastronomique en progression. Mais qu'en est-il de sa réputation écologique ? Parce que le silure est accusé de tout décimer sur son passage.
Ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des poissons qui n'avaient pas de prédateurs avant. Des gros poissons, donc le brochet, le saumon, la lose, la lamproie, vraiment des gros poissons. Et qui maintenant en ont un avec le silure, puisque lui, il peut s'attaquer à toutes les autres espèces.
Il fait des dégâts, quoi ?
Sur les poissons sédentaires, je pense pas. Il y en a forcément moins qu'avant, puisqu'il y a le silure qui a pris sa place. Mais ce qu'il faut voir, c'est la quantité globale.
Il vient pas de déséquilibrer, c'est ce que vous dites.
Non. Il change l'équilibre, mais la nature se réadapte, quoi. Faut pas oublier aussi que c'est nous, l'être humain, qui l'avons amené. Donc, si on veut tirer des leçons de ça, c'est pas en éradiquant le silure, c'est plutôt en réfléchissant à nos pratiques futures, aux espèces qu'on peut éventuellement ramener. C'est vrai aussi pour les plantes. Hein.
Une réflexion à mener, elle accompagne d'ailleurs toute la philosophie de Romain Gadet, qui ne pêche au passage que le strict minimum.
Le but, c'est s'adapter vraiment à ce que la Loire nous donne. On voit ce qu'on pêche et on fait la carte en fonction. Donc là, on remet notre ligne.
Si tu devais trouver là où celui qui va dégager le silure de...
Ah bah la prochaine star, c'est l'asp.
Ouais, mais l'asp, si je puis me permettre, a quand même moins de gueule.
Voilà, c'est bien le problème du silure, c'est que sa gueule fait que on est fan, soit on déteste, mais on n'est pas indifférent. Donc on parle que de lui. Prochain sujet, l'asp.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter, bien sûr, sur la page de l'émission.
Bien, bon après-midi pour moi hier. Nicolas Grosbois, avec un petit silure, qu'est-ce qu'on boit ?
Un Touraine à zèle rideau, blanc, sec.
C'est juste derrière la forêt et c'est les terroirs où on a grandi avec Sylvain quand on était petit autour des pommiers et des poiriers.
Ah.
Val de Lande, c'est génial.
Donc un petit vin sentimental. Des messages des auditeurs. Dominique sur franceinter.fr. Bravo aux vignerons sensibles à la biodiversité, aux arbres et aux oiseaux. Ça fait trop plaisir, nous dit Dominique. Voilà ce petit message pour vous. Et puis une question de Philippe de Limoges. Je suis une fan de l'agroforesterie, mais une question me taraude. Pourquoi les vignes françaises sont taillées bas, contrairement aux vignes italiennes, par exemple, Nicolas?
Alors c'est pas tout à fait le cas, parce que tu vas en Alsace, les vignes sont plutôt taillées à 1 mètre 10. Et il faut se dire qu'en France, on a, comme dans toute l'Europe en général, Italie, l'Espagne, on est dans l'héritage des appellations contrôlées. Il y a des choses comme ça où je te dirais que c'est juste l'histoire qui a fait que les vignes étaient basses. Il y a certainement une raison, mais on est régi par les appellations contrôlées. C'est ce qui nous intéresse avec toute l'équipe ici et Sylvain, parce que ça fait partie de notre histoire. Te dire pourquoi, c'est un peu une colle, exactement.
Bon. Eh bien, dans un instant, justement, nous allons rejoindre Sylvain pour la séquence la plus cochonne de cette émission. Ce sera juste après Yoa sur France Inter.
Tu sais que tu me manques tard le soir, et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. Je ne peux plus dormir quand tu n'es pas là. Je pourrais le cacher, mais je n'y arrive pas. À l'autre bout du téléphone, j'écris chanson sur toi. Passer pour une conne, je ne te les enverrai pas. Dis-moi s'il te plaît, si tu voulais, est-ce que tu pourrais? J'ose pas demander, peut-être que je devrais le dire en anglais. Won't you let me know, won't you let me go, just let me go. Don't you know, won't you let it show or let me go. Please don't overshare, tell me if you care, baby. C'est pour une folle psychophobie, très peu pour moi. J'ai beau m'arrêter sur les erreurs, sur le passé. C'est toi que je veux et que j'attends pour me baiser. Je ne voudrais pas me transformer en sorcière. Quand tu fleuris, t'habites à un goût amer. J'ai voulu jouer, mais maintenant j'y vois plus clair. Clair, quel enfer, les sentiments sont pénétrants. Tu sais que tu me manques quand j'en ai envie tard le soir. Qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. When you're not around, baby, I don't sleep no more. And you know that I'll never mind being your little whore.
Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France
la suite
Inter.
De notre terre au carré au domaine Grosbois, à côté de Chinon en Indre-et-Loire. Et c'est Sylvain que nous retrouvons, vigneron et frère de Nicolas, Sylvain Grosbois. Nous sommes donc dans la forêt, Sylvain, derrière le domaine. Et c'est là que vivent vos cochons.
Tout à fait.
Oh bah tiens, ils sont parfaits d'ailleurs. Hein.
Ils arrivent.
On les entend.
On les
comité d'accueil.
Les copains! Cochon! Allez, copains! Venez nous voir!
Ils arrivent en courant!
Mais ils arrivent! Mais c'est incroyable!
C'est mieux qu'un fox terrier en fait! Hein.
Allez!
Voilà. Vous en avez combien ici, Sylvain?
On est à 15 cochons sur le domaine.
Ouais.
Donc sur une surface d'environ 5 hectares. Ils sont sur différents parcs.
Ils rappliquent tous là, c'est vraiment.
Ouais, c'est vraiment des. Des animaux assez sociables qui se rapprochent souvent des caractères des chiens qu'on peut comparer à des chiens.
Voilà, Hélène, notre technicienne, s'approche des cochons pour faire une belle prise de son. Voilà.
Ils sont très très gentils.
Ouais.
C'est quelle race là?
Ça, c'est des races longuées. C'est des cochons rustiques, locales aussi, parce que c'est une race qui vient du Saumurois, qui a été remise à jour en 1980 par l'association des cochons de Longuet. De laquelle on fait partie au domaine. Et c'est vraiment une association de 14 producteurs qui sont pour un élevage de cochons sur paille, donc en liberté.
Alors c'est ça, parce qu'il faut décrire l'environnement dans lequel vivent ces cochons, ce qui est quand même un peu la vie rêvée pour un tel animal. Hein.
Ouais, tout à fait. Il y a, on va dire 0,5% des cochons qui sont élevés dans ces conditions-là en plein air.
Ouais.
Ils connaissent pas le goudron, ils connaissent pas les planchers, les caillebotis. Donc ils vivent vraiment dans un espace très très large et on va dire qu'ils sont, ils ont l'air plutôt heureux.
Ils se grattent.
Ça c'est ce chocolat qui se gratte là.
Ouais. Question, cette race, donc ils ont les oreilles vraiment devant les yeux, donc ils n'y voient rien du tout, ou comment ça se passe?
Ils voient pas grand chose, c'est vrai.
Mais pourquoi l'évolution a fait ça?
Ça se fait beaucoup à l'oreille. C'est, en fait, ce qu'ils expliquent, enfin les gens qui ont formé la race du cochon de Longuet, c'est qu'ils se dirigent plus sur le caractère que par rapport à ses qualités gustatives ou par rapport à ce qu'il soit joli ou pas. On est vraiment sur une question de caractère. Donc c'est des cochons qui sont vraiment très sociables. Et là, on peut le voir dans les petits aussi.
Ça, c'est les jeunes en fait.
Ça, c'est les jeunes.
C'est les chocolatines, comme vous dites. Hein.
Chocolatine est un peu plus haut là-bas. Mais ça, c'est les neuf porcelets, oui.
Il y a
6 mois.
6 mois.
Ouais,
et c'est quoi l'intérêt d'avoir des cochons dans un domaine viticole, Sylvain, exactement?
Eh bien, ça fait partie de cette diversité. On veut avoir un retour un petit peu à la vie paysanne comme c'était il y a une cinquantaine d'années.
Ouais.
Et l'idée, c'est de revoir un contact et se rapprocher un petit peu de l'animal et pas rester que sur le végétal comme on peut l'être en permanence.
Mais bon, je ne vais pas casser l'ambiance, mais on est d'accord que tous ces cochons sont destinés à finir dans nos assiettes, enfin dans les assiettes de certains.
Tout à fait, ouais, c'est l'objectif, c'est le compromis. Mais ça fait partie de la vie et des choses. Des choses de la vie, ouais. Alors on est sur le principe de choisir des choses de qualité, donc des viandes de qualité pour en consommer moins, mais des choses qualitatives et des animaux qui ont eu quand même une très belle vie.
Sylvain, combien de temps vivent les cochons ici par rapport à un élevage industriel, pour faire la comparaison?
Un élevage industriel, on est en général sur un peu moins de 6 mois, alors que là on arrive à des 18 mois pour avoir. On prend le temps en fait pour l'élevage, on prend le temps pour les soigner, pour qui grandissent à une allure raisonnable, sans antibiotiques, sans traitement, sans intervenant en fait. C'est un petit peu comme dans le vin, on essaie de pas intervenir sur la croissance des cochons.
On peut parler de l'intelligence de cet animal?
Ah ouais,
parce que c'est vraiment d'une sensibilité folle, hein, quand
complètement.
Même. Complètement.
Enfin moi je le vois quand je viens faire le tour des ils nous suivent, ils répondent comme vous l'avez vu par leur nom.
Ouais.
Et ça c'est des gens qui me l'ont appris il y a pas très longtemps parce que moi je connaissais pas grand chose des cochons et c'est la Thibaudière à Courcouët. Qui nous ont vraiment formés par rapport à l'élevage des cochons et partagé énormément de renseignements. C'était vraiment un très très bel échange.
Est-ce que vous vous attachez d'une certaine façon à eux? Parce que là, on les voit, on se dit oh, c'est trop mignon, mais est-ce que vous essayez de faire attention? Parce que vous, voilà, vous pouvez pas vous permettre de vous attacher à tous vos cochons.
Ouais, tout à fait. Alors après, tous les jours sont assez jolis avec les cochons, sauf un jour, c'est le jour où on s'en sépare. Oui, c'est délicat, c'est pas le plus beau jour de notre vie. Mais ça fait partie un petit peu de l'élevage et du contrat.
Avec l'abattoir qui est pas tout à fait à côté.
Mathieu, il y en a un qui est en train de se...
Un petit moment d'intimité.
Oui, il y a des chaleurs qui arrivent.
Voilà.
Et des chaleurs qui... C'est le début des chaleurs.
Mais là, ils sont vraiment en train de se reproduire, là?
Non, parce que les mâles sont pas en position de se reproduire.
L'abattoir se trouve à combien de kilomètres?
À Vendôme, malheureusement.
Ouais.
C'est un petit peu plus loin. L'abattoir de Bourgueil existait encore il y a jusqu'à six mois, mais maintenant, il a fermé. Et maintenant, on est obligé de se déplacer jusqu'à Vendôme. Il insiste, hein, on dirait.
Quand Mathieu
on
va pas regarder autour les yeux. En même temps, Mathieu va annoncer la couleur.
Alexis Courreau, le choix des animaux, c'est important aussi en polyculture. Hein. On choisit pas des espèces comme ça au hasard.
Oui, tout à fait. On choisit des espèces plutôt rustiques, déjà, parce qu'elles vont vivre en extérieur. Donc, qui n'ont pas besoin de beaucoup de beaucoup de médicaments, de beaucoup de, et puis qui vont supporter les conditions de vie un peu rudes, mais leur rôle est d'apporter quelque chose au sol, au terrain. Donc si on prend les vaches par exemple, et ben leur rôle c'est d'entretenir les prairies, donc il faut
qu'elles restent toute aussi l'année ici, sur le domaine. Prairies,
exactement.
Nous sommes sortis de l'enclos aux cochons et nous croisons sur notre route, quel le hasard.
Par hasard, oui.
Anna, bonjour Anna. Bonjour, Planelles Barcia, vous êtes d'origine espagnole. Et ouais. Vous êtes arrivée il y a combien de temps ici au domaine ?
Et j'y arrivais, il faut un an et demi, un peu plus.
Ouais.
J'y arrivais avec mon sœur Martha et des amis. Et on arrivait pour faire la saison de printemps, mais finalement, on a resté ici.
Donc la partie maraîchage, c'est vous qui vous en occupez. C'est ça. Vous nous avez apporté un panier avec les légumes de saison, puisque ce sont nos quatre saisons. Donc l'automne, qu'est-ce qu'on trouve ici au domaine ?
Okay. Et pour l'automne, maintenant, qu'on commence à voir, c'est les radis noirs et les navettes.
Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas ces légumes.
Ça c'est la betterave.
La betterave ça?
Ouais, ça c'est une betterave d'ici de cette région. C'est une variété ancienne.
D'accord.
Parce que un des objectifs c'est de faire la culture, de prioriser les semences anciennes.
Ouais.
Donc c'est pour ça que Martin et moi on a fait vraiment une investigation pour voir et trouver les semences.
Ouais, petit marron.
Patate douce.
Ouais. Ouais, ça c'est la patate douce.
Les carottes, le radis noir et les tomates.
Ouais.
Donc encore. Ça c'est ce qu'on trouve et les blettes.
Les blettes, c'est ça.
Les tomates, il y a encore des tomates.
Avec cette année la météo c'était exceptionnel, donc maintenant on a un peu de chaleur pour avoir les dernières tomates.
Nicolas, c'était votre idée au départ, je crois, de réfléchir à ce projet de maraîchage diversifié, là encore.
Ça a toujours fait partie de l'idée. On a, dans le principe, quand on voit ce qu'on donne à manger dans les cantines à nos enfants dans le village de Panzou, ça nous fait un peu peur. Donc la seule solution de changer tout ça, c'est d'être capable de produire des légumes sur place, mais de façon conséquente. Hein, et on est aidé avec ça par notre copain Xavier Elzeni à Brémont qui nous aide beaucoup pour le maraîchage.
Ouais. L'idée, c'est de faire grandir cette production maraîchère.
Ouais, tout à fait. D'être capable de faire 150, 200 paniers. Alors, je parle sous le contrôle des filles, parce qu'Anna et Martha, parce que des fois, elles me regardent avec des grands yeux, elles me disent, mais t'es fou. Et de monter des serres progressivement. Mais ça, c'est comme le reste, c'est comme la vigne, c'est comme la biodiversité. Il va nous falloir plusieurs années pour le mettre en place, parce que c'est d'abord un travail humain, avant un travail de matériel, et c'est tout le défi qui rentre en compte.
Et l'idée, c'est de recruter aussi des professionnels pour venir vous aider.
Oui, et c'est en plus, notre objectif, c'est de mettre en place le projet, mais d'ici un an et demi, Martin et moi, on va partir. Donc l'idée, c'est de trouver quelqu'un qui veut
prendre la suite.
Ouais. La suite.
Et poursuivre sur cette idée.
Tout en bio, on est d'accord aussi.
Oui, tout en bio.
On va vous mettre la photo du panier d'automne sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré, juste après l'émission. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la fin, justement, de cette Terre au Carré. Mais pour le moment, c'est l'heure de retrouver le reportage d'Anna Elver sur le front des luttes. On ne pouvait pas parler des luttes le long de la Loire sans évoquer les centrales nucléaires. Il y en a quatre sur ce fleuve, plus des barrages pour assurer la continuité des arrivées d'eau essentielles pour refroidir les réacteurs. Annaëlle est allée voir deux centrales nucléaires, d'abord celle de Chinon à 12 km d'ici avec Philippe Gardel du réseau Sortir du Nucléaire.
Alors on a pris nos vélos, donc on longe la Loire à vélo avec Philippe Gardel. Ah, voilà.
Et là, on est un des endroits où on vient faire des prélèvements pour les envoyer à la croix. Du sable qui se mélange aux cailloux.
Alors, Philippe, dans cette eau, il y a de la radioactivité.
Oui, tout à fait. Oui, il y a de la radioactivité. Donc,
vous l'avez mesuré.
C'est ça. Donc, pour le tritium, on est à peu près 20 becquerels par litre à chaque fois qu'on fait des prélèvements. Donc, ça veut dire que c'est ce qui est l'ambiant, l'ambiance de la radioactivité.
Et ça, c'est normal?
C'est normal. Moi, je ne trouve que c'est pas normal parce que pour moi, la Loire, ça doit être de l'eau et puis c'est tout, de l'eau, des poissons,
de l'eau pure.
De l'eau pure, oui, bien sûr.
Et en 2019, vous avez mesuré jusqu'à 300 becquerels par litre.
Oui, 310 à Saumur. Donc à peu près 20 km d'ici, et on a pu prouver que c'était la centrale de Chinon qui avait fait un rejet.
Mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que c'est dangereux?
Je ne sais pas. Là, c'est pareil, on va prendre de la radioactivité, mais elle est faible, forcément qu'elle est faible. Mais sur le long terme, elle est forcément importante.
Et vous craignez le risque d'accident nucléaire ici? On sait que le niveau d'eau de la Loire baisse, est-ce que ça peut avoir un impact sur cette centrale nucléaire?
Là, on est en période où la Loire est basse, il ne pleut pas beaucoup, donc elle n'augmente pas. S'il n'y a vraiment plus assez d'eau du tout, si les barrages sont vides, ça veut dire que les réacteurs, il faudra les arrêter. On disait au départ que les réacteurs devraient fonctionner 30-40 ans, là EDF nous parle de 60 ans. Là aussi, on n'est pas tranquille, hein, parce que une machine censée fonctionner 40 ans, si vous la faites fonctionner 60, il y a forcément des problèmes qui vont arriver, hein. Si ça continue comme ça, il y en a encore pour 20 ans. Et 2040, ça correspondra aux EPR que M. Macron voudrait pouvoir construire.
Et qui prendront le relais de...
Oui, théoriquement, si on le laisse faire.
De la centrale ici.
Oui, c'est ça, si on le laisse faire.
François, tu es militant anti-nucléaire. Vous écrivez sur votre tract. Chaque année, depuis plus de 50 ans, l'industrie nucléaire déverse dans la Loire l'équivalent de 300 camions-citernes de différentes substances chimiques ou radioactives. En 2020, près de 6000 tonnes de rejets chimiques dans la Loire.
Versant. Dans la Loire et la Vienne et sur le bassin versant, c'est ça.
À cause des centrales nucléaires.
Par les centrales nucléaires elles-mêmes, oui. L'eau, elle ne fait pas que passer, elle ressort réchauffée et chargée d'éléments chimiques et radioactifs.
Saint-Laurent-des-Eaux, on est entre Blois et Orléans, avec tout un groupe qui sont des membres du comité de défense du Verdelais. Et je suis presque nez à nez avec la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Bonjour monsieur, Jean-Paul. Votre prénom c'est comment ?
Jean-Paul.
Alors vous étiez déjà là au moment de l'accident nucléaire ?
Celui de 80.
Oui, il y a eu deux accidents.
Ben, les deux plus importants, français.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez nous rappeler ?
Perte de refroidissement et début de fusion du cœur. On n'avait pas pensé que l'eau pouvait geler. Il y a eu un embâcle de la Loire et ça a bouché l'entrée d'eau. Donc catastrophe. Le temps qu'on arrive à dynamiter l'accumulation de glace, bah ça a fait chauffer la machine, quoi. C'est resté circonscrit, on nous a dit. Les effluents, on les a stockés.
Ils sont toujours stockés ?
Ah non, on les a lâchés petit à petit.
On les a lâchés...
Dans l'atmosphère et en Loire.
Quand on habite à 10 km d'une centrale, on voit les choses sous un autre angle. Parce que l'erreur est humaine, hein. Il n'y a rien, le risque zéro n'existe pas.
Voilà, reportage signé Annel Verzo. Le collectif du Verdelais se bat depuis 30 ans pour que le démantèlement de la vieille centrale de Saint-Laurent-des-Eaux se fasse sans incident. Allez, c'est pas l'atome qu'on va fêter pour terminer cette émission, mais le vin de Chinon, évidemment. Et alors, Sylvain, vous avez voulu nous emmener dans un endroit qui compte beaucoup pour vous et votre frère, je crois, ici. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un peu la cave familiale, le petit caveau qui est en haut de coteau.
Qui domine hein, vraiment le paysage.
Qui, ouais,
et là, il y a une cave.
Sur la vallée.
Ouais.
Et là, on va rentrer dedans.
Ah oui.
Et là, il fait une température géniale.
La porte a tout son charme.
Avec de la fraîcheur. Là, c'est votre petite réserve personnelle, on dirait, non ?
Oui, c'est un petit peu la cave de la famille et des amis. On a énormément de souvenirs. Les proches de la famille la connaissent tous. Et vraiment, tous les amis, ils sont venus.
Vous venez ici à dos, Nicolas, c'est ça ?
Ouais, on venait petit, ouais, on est jeune parce que l'avantage de l'endroit en plein hiver, c'est qu'il fait toujours 13 ou 14 degrés.
Ouais.
Et quand t'es ado et que tu te mets à découvrir le vin, eh ben, on est bien. Ouais. C'est des soirées toutes organisées, mais
oh
t'écoutes tout, tu t'éclaires à la lumière. C'est des moments formidables.
Ouais. Ouverture de la bouteille. Ouais.
Tout à la bougie parce qu'il n'y a pas la lumière.
On va le boire dehors.
Et on va le boire dehors avec toute l'équipe. C'est un Gabard 2020. C'est les vignes qui sont juste en dessous de la cave.
Allez,
chez nous, la cave est en haut.
Et alors, on va s'asseoir dans des fauteuils tout à fait particuliers aussi, hein, quand même.
Ouais. Ça fait partie de... C'est le petit endroit pittoresque. On a un ancêtre qui a sculpté des fauteuils directement dans la pierre, dans cette pierre miarge, qui est la particularité de l'appellation Chinon. C'est des sédiments marins de 40 millions d'années.
Ah, donc on s'assoit dessus.
Et c'est du coquillage, tu vois, quand tu le touches comme ça. Bah. Regarde. C'est la plage.
Ah ouais, ça fait du sable. Hein.
C'est du sable. Et c'est ce sable qui fait la richesse du terroir ici et qui permet au Cabernet Franc, cépage local, enfin, pas vraiment local parce qu'il est de chez Anna et Martha, nord du Pays Basque, et il fait mûrir le Cabernet Franc à merveille.
Donc on va boire ce vin tout en regardant les truffiers, Sylvain, parce que vous en avez aussi ici.
Oui, on récolte aussi des truffes. C'est des truffiers qu'a planté notre papa en 2005 et qu'il cave avec son chien Myrtille.
C'est le chien qui découvre les truffes.
Ouais, tout à fait. C'est,
comment
c'est,
il fait
c'est, il, mais il s'arrête et il met la patte dessus, tout simplement. Et là, on n'a plus qu'à creuser et regarder s'il y a une truffe. Et c'est toujours une grande surprise à savoir de quelle taille est la truffe et de quelle qualité.
quel vin on déguste alors là, juste Nicolas ?
Alors là, tu dégustes Gavard 2020. Donc c'est vraiment le... Ça, c'est le vin qui a traversé l'histoire, qui a commencé par nos parents. Et
on va trinquer avec toute l'équipe, évidemment.
Ouais. Avec modération, on est voilà,
évidemment.
Mais avec plaisir.
Et on va vous remercier pour votre accueil. Merci infiniment. Domaine Grosbois, donc à Panzou. Toutes les infos, évidemment, sont sur la page au carré.
C'est bon,
la page de la terre au carré. Voilà, j'en parle un tout petit peu. Et le temps de vous annoncer une annonce importante pour l'émission, oui. Puisque lundi, événement Terre au Carré, ça fait 4 ans qu'on l'attend quand même avec Camille. La première fois que nous recevons Greta Thunberg, la militante suédoise, nous a accordé une interview exclusive pour la sortie d'un livre sur le climat qu'elle a dirigé. Vous l'entendrez dès 7h50 lundi matin chez Léa Salamé. Et ensuite, en interview longue dans la Terre au Carré, c'est une exclue française puisque Greta n'a accordé qu'un seul entretien par pays. Et elle a choisi l'émission.
Une heure avec nous, Greta Thunberg.
Ce sera donc lundi à 14h. Retrouvez les photos, tout ce qui compte aujourd'hui sur notre visite dans ce domaine de Grosbois sur la page de l'émission. À demain!